accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à toutes, nous poursuivons aujourd'hui notre série de rediffusions estivales. Que faire des déchets radioactifs? La question se pose de manière de plus en plus urgente pour tous les pays qui ont choisi l'énergie nucléaire. La Finlande a pris une longueur d'avance en donnant son feu vert en 2015 à un site d'enfouissement des déchets nucléaires. 100 000 ans, c'est le temps qu'il faudra pour que tout danger soit écarté. Alors comment garantir une sécurité pour presque l'éternité? Notre correspondante Anne-Françoise Hiver s'est rendue à Onkalo sur la côte ouest. C'est là que le site est en construction sans provoquer de contestation de la population locale. Visite.
Vous avez tous des casques, des vestes, des lampes, des bottes? Ok, on est prêt. Allez, on y va.
So, let's go.
C'est le géologue Thomas Perret qui assure la visite du site Onkalo et vérifie l'équipement de chacun. Trois fois par an, la compagnie Posiva, chargée de la gestion des déchets nucléaires finlandais, y organise une journée porte ouverte pour les journalistes étrangers. Car chez Posiva, on en est convaincu, la transparence et l'ouverture sont les meilleurs outils de communication pour vendre le projet. D'ailleurs, à l'entrée, aucun manifestant ni pancarte appelant à la fermeture du site, mais une forêt de bouleaux et de sapins à perte de vue. On est parti d'Helsinki tôt le matin, 3 heures de route jusqu'aux rives de la Baltique et Eurajoki, une petite municipalité de 6000 habitants à peine. Le plus gros employeur privé de la région est la centrale nucléaire d'Olkiluoto, avec ses 2 réacteurs en activité et le 3e en construction, le projet EPR du français Areva, qui aurait dû être inauguré en 2009, mais peine à voir le jour. C'est ici que la société Posiva construit son cimetière nucléaire, Onkalo, la cave en finnois.
Aujourd'hui, nous allons aller jusqu'au site de démonstration qui se trouve à une profondeur de 420 mètres, ce qui veut dire que nous devons conduire un peu plus de 4 km le long de ce tunnel. Voilà, nous sommes arrivés.
À 420 mètres sous terre, l'atmosphère est humide, le bruit assourdissant. Sur le côté, des ouvriers sécurisent la paroi d'une galerie latérale. D'autres, en contrebas, creusent dans le granit pour ouvrir de nouveaux corridors.
Notre concept est d'abord de creuser un tunnel, puis des tunnels de dépôt définitifs. Ensuite, nous perçons des trous dans le sol des tunnels. Les déchets nucléaires seront placés dans des capsules en cuivre avant d'être enfouis dans des trous comme celui-ci. Venez par là, je vais vous montrer un de ces trous.
Les puits font 8 mètres de profondeur sur 1,5 mètre de diamètre. Une fois remplis, les silos seront comblés de bentonite, de l'argile, puis les tunnels seront scellés par d'immenses bouchons de béton d'ici une centaine d'années. La Finlande a opté pour un mode de gestion passif. Aucune intervention humaine ne sera nécessaire pendant les 100 000 années qui suivent. Selon les modèles réalisés par les ingénieurs et les géologues de Posiva, la roche granitique de la péninsule d'Olkiluoto est idéale pour ce type de sépulture, assure Thomas Perret.
Ce site a beaucoup d'avantages. L'un des principaux est que cette zone est géologiquement stable. Nous sommes loin de tout risque de chevauchement entre deux plaques actives et de toute activité volcanique. Qui sait, peut-être la civilisation aura disparu, mais les déchets nucléaires, eux, n'auront pas bougé.
C'est cette assurance qui exaspère Mathis Arnisto, ex-patron de l'Institut finlandais de géologie, un des seuls scientifiques à s'être mobilisé contre Onkalo. Aujourd'hui à la retraite, il continue de critiquer le projet.
Il y a une tendance à la propagande de la part des compagnies, mais aussi de notre système politique et de nos autorités. Ils veulent nous convaincre que parce que nous avons ce sous-sol rocheux stable de plus de 2 millions d'années, il n'est pas dangereux d'y entreposer des déchets nucléaires.
Le géologue n'est pas de cet avis. En 2008, il a rédigé un rapport pour la STUC, l'autorité de sûreté nucléaire finlandaise. Selon lui, il est impossible de prévoir ce qui se passera pendant et après la prochaine glaciation qui devrait intervenir d'ici quelques dizaines de milliers d'années.
Personne ne peut garantir que les capsules ne seront pas brisées pendant la dépression causée par l'accumulation de glace, puis le relèvement du sol qui aura lieu ensuite. Depuis que j'ai rédigé ce rapport, de nouvelles preuves ont été accumulées, qui montrent que le sous-sol n'est pas si stable. Le bloc a été cassé par des tremblements de terre et des failles qui traversent le site d'enfouissement d'Onkalo. Il n'y a rien de spécial à Olkiluoto.
Au Parlement, à Helsinki, seuls quelques députés verts font valoir leur opposition. Parmi eux, Satou Assi, elle dénonce une décision plus politique que scientifique.
À Eorayoki, il n'y avait pas de résistance locale parce que la municipalité recevait déjà beaucoup d'argent de la centrale nucléaire, qui fournit aussi un nombre remarquable d'emplois pour une si petite municipalité.
Satou Assi raille la confiance des Finlandais.
Nous avons tendance à croire ce que disent les autorités, même s'il y a des moments où elles s'empressent d'être beaucoup trop proches des gros lobbies industriels.
Le président de Posiva, Janne Mokka, au contraire, évoque une décision responsable.
L'idée, c'est que cette génération qui a utilisé l'uranium doit en gérer les conséquences. C'est le but commun.
Mais comment garantir que les déchets resteront bien sous terre pendant 100 000 ans, que personne, pendant cette éternité, ne cherchera à découvrir ce qui se cache sous la péninsule d'Olkiluoto? Jussi Ainonen, qui chapeaute la gestion des déchets nucléaires auprès de la STUC, l'autorité de sûreté nucléaire finlandaise, rassure.
Oui, c'est une longue période, mais l'activité des déchets utilisés et leur dangerosité diminuent très rapidement durant les 500 et 1000 premières années.
Surtout, rappelle-t-on, en Finlande, il n'y a pour le moment aucune autre alternative. Garder ces déchets en surface, comme c'est le cas aujourd'hui dans un contexte international et climatique aussi instable, serait irresponsable.
Interdire l'installation dans certains quartiers de familles qui bénéficient d'allocations sociales. Officiellement, il s'agit de lutter contre la ghettoïsation. En fait, les arrêtés pris par plusieurs villes de République tchèque répondent à des motifs beaucoup moins avouables. La chasse aux, je cite, inadaptables et aux populations roms est déclarée à Prague. Alexis Rosenzweig.
Les nouveaux arrêtés municipaux devraient entrer en vigueur dans une dizaine de communes avant la fin de l'année. Il s'agit pour les maires de freiner l'arrivée dans des quartiers sensibles de nouveaux habitants dont le loyer est en grande partie payé par l'État grâce à des allocations qui permettent à des propriétaires de logements souvent insalubres de gagner beaucoup d'argent sur le dos de locataires dans le besoin. Cette nouvelle forme de législation locale fait l'objet de critiques, notamment de la part de l'Agence gouvernementale pour l'inclusion sociale, qui considère cette solution comme dommageable pour les catégories les plus fragiles et inefficace dans la lutte contre la criminalité et la toxicomanie. La République tchèque est toujours dans l'attente de l'adoption par son Parlement d'une loi sur le logement social qui devrait réguler au plan national un problème qui s'aggrave d'année en année dans les régions les plus pauvres. Malgré la bonne santé économique du pays, le nombre de localités socialement exclues est en constante augmentation, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vivent à la marge, considérées comme des parasites par l'extrême droite représentée au nouveau Parlement tchèque. Les autres partis politiques parlent quant à eux de personnes inadaptables, et quand le chef de l'État Miloš Zeman affirme que 90% des inadaptables sont des Roms, on passe très rapidement à Prague d'un problème social à une question raciale.
Prend de la hauteur à la frontière polonaise, on peut désormais découvrir le massif des Tatras avec une promenade suspendue proche des sommets, panoramique garantie comme nous le raconte Maya Szymanowska.
La construction en bois semble si frêle, elle serpente entre les cimes des arbres à plus ou moins 30 mètres au-dessus du sol. Une simple rambarde de planches sépare les touristes du vide. Mais la promenade vaut la frayeur. Le panorama qui s'étend depuis ce chemin haut perché sur la chaîne des Tatras est époustouflant. Nous sommes à Zdar, en Slovaquie, à 10 km de la frontière polonaise. Cette nouvelle construction permet des balades dans la montagne presque à vol d'oiseau, juste au-dessus des sapins. Le parcours de 603 mètres est agrémenté d'informations sur la flore et la faune de la région. Une tour de plus de 60 mètres avec un toboggan vous envoyant dans les profondeurs de la forêt rendra heureux tous les amateurs des sensations fortes. Cette nouvelle attraction attire déjà les touristes polonais. Les réseaux sociaux regorgent des photos du parcours. Le clan des musiciens folkloriques des montagnes, les Bachleda, se sont photographiés en famille. Il faut dire que les Polonais sont de grands amateurs de la marche en montagne et des sports alpins. 3 millions de touristes se rendent dans les Tatras polonaises chaque année, mais de plus en plus traversent la frontière pour aller chez les voisins slovaques, moins envahis. Cette nouvelle attraction va probablement encore amplifier le phénomène.
À quelques jours du retour de la Grèce sur les marchés internationaux pour se financer, le pays poursuit ses réformes, et notamment celles dictées par ses créanciers européens. La privatisation du port de Thessalonique après celle du Pirée et de celle-là, le deuxième port de Grèce a été vendu à hauteur de 67% à un consortium franco-chinois germano-russe. Thessalonique deviendra-t-elle la nouvelle porte d'entrée des Balkans, un maillon central de la nouvelle route de la soie mise en place par les Chinois pour exporter vers l'Europe? En attendant, le port a besoin de beaucoup d'investissements, 350 millions, et les syndicats sont dans l'expectative. Reportage sur place de Charlotte Stevenard.
Oui, bonjour, je suis Marc Riondel, je suis le directeur d'exploitation du port de Thessalonique et le directeur général du terminal conteneur de Thessalonique.
Et donc là, on s'approche...
Donc nous rentrons dans le terminal conteneur. Vous voyez ces portiques automatiques pour l'accueil des conteneurs. Ils prennent des photos pour vérifier s'il y a des avaries sur le conteneur. Nos premiers efforts... Dès la prise en main du terminal, ont été tournés vers la sécurité. Les progrès sont rapides, mais nous souhaitons acquérir un niveau réellement international et il y a encore un certain nombre d'efforts à faire.
Calimera !
Le port de Thessalonique est une affaire qui a du potentiel. De 2016 à 2017, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de près de 13%, notamment grâce à une augmentation du trafic de conteneurs. Mais le sous-investissement de ces dernières années reste un lourd handicap. C'est ce qu'a pu constater le consortium peu après son arrivée aux affaires fin mars. Il a annoncé qu'il devrait injecter 27 millions d'euros de plus que prévu, explique Marc Riondel.
Nous savions que l'équipement était désuet. Mais nous n'avions pas anticipé un tel niveau technique de désuétude dans les équipements. Il y a eu un manque de maintenance très significatif pendant les 5 dernières années. Et c'était effectivement quelque chose d'inattendu pour nous. Donc nous lançons en urgence des chantiers de réhabilitation des équipements. C'est difficile parce que ce matériel est ancien, donc souvent difficile de trouver des pièces détachées, difficile de trouver l'expertise à proximité, pour l'instant du moins.
Pour les syndicats, curieusement, c'est seulement après la privatisation que la question du sous-investissement a été mise en avant. Pour Lazaros Tindalidis, président du syndicat des opérateurs de machines et grutier depuis 15 ans, ces dernières années, le port a été dévalué à dessein.
L'objectif était clair, faire perdre de la valeur au port pour sécuriser la vente au privé et dire ensuite que les services gérés par l'État sont mauvais, qu'ils ne peuvent pas faire d'investissement. Mais il a été prouvé que l'État peut faire des investissements qui plus tard lui apporteront des revenus.
Tous les syndicats étaient opposés à la privatisation, explique Fanny Gourgouri dans son bureau. La présidente du syndicat des employés administratifs du port explique que désormais la vente est signée, il faut donc avancer.
Nous estimons que dans la nouvelle configuration, il y a deux choses urgentes. La première, c'est que les investissements aient lieu, aussi bien en ce qui concerne les équipements électromécaniques que les infrastructures. La seconde, ce sont les recrutements. Ils sont nécessaires dans le respect total du droit du travail.
Le respect du droit du travail inquiète depuis la privatisation du port du Pirée, racheté par Cosco. En 2008, quand le géant chinois du fret maritime avait acquis un premier terminal à conteneurs, il avait été très critiqué par les syndicats pour offrir des salaires bas et des contrats précaires. À Thessalonique, la direction se veut rassurante, mais les travailleurs sont dans l'attente, comme ses deux collègues qui préfèrent ne pas donner leur nom.
L'important, c'est qu'ils respectent la valeur des travailleurs. Bien entendu, le plus important pour nous, c'est notre salaire. Mais il y a des choses aussi capitales, comme la dignité des travailleurs. Tu veux avoir de bonnes conditions de travail.
Pour moi, ce qui est important, ce sont les horaires. Nous travaillons de 7h30 à 15h. Je n'aimerais pas que cela passe de 9h à 17h. Le plus important, c'est d'avoir du travail.
Alors que la crise n'est pas finie, l'inquiétude est toujours là pour les 330 employés. Un port de taille moyenne donc, mais qui pourrait jouer un rôle plus important à l'avenir. Terminal Link, un des repreneurs, est une entreprise française et chinoise aussi, détenue en partie par China Merchant Holdings International, premier opérateur portuaire public en Chine. Le port de Thessalonique fera-t-il partie de cette fameuse route de la soie, aussi appelée One Belt, One Road, une suite d'investissements sur l'ancienne route du même nom jusqu'en Europe, pour permettre à la Chine d'y étendre son influence économique. Boris Wenzel, le directeur général de Terminal Link, reste prudent.
Pour l'instant, non. Et bon, Terminal Link reste vraiment une société française. J'insiste, on a des partenaires chinois, mais ça reste une société dont le siège est en France, dont le management est, bon, est surtout français. Les China Merchants sont des partenaires financiers. Mais effectivement, bon, aujourd'hui nous avons tenu le board de Terminal Link ici à Thessalonique, donc ça a permis vraiment de montrer le potentiel de ce port autant à la ligne qu'aux partenaires chinois. Et donc on va voir, effectivement, ça peut peut-être déboucher à ce qu'ils l'inscrivent sur One Belt, One Road. Donc ça deviendrait un point de focus pour des investisseurs chinois et pour le développer dans le contexte des routes de la soie, quoi.
Alors que le port cherche à rattraper son retard, il se concentre d'abord sur la mise à niveau des équipements désuets. Le consortium a annoncé que les investissements obligatoires ne débuteraient que début 2019. Objectif, relier le port à l'arrière-pays, notamment Sofia et Skopje, la porte d'entrée des Balkans. Écoute ce disque.
Écoute ce disque. Et c'est l'heure de notre chronique musique avec vous, Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Et vous revenez sur le deuxième album d'AVSS Cyclone.
Petite séance de rattrapage aujourd'hui avec un album qui est paru en janvier, mais comme le trio qui en est l'auteur a mis 5 ans à le concevoir et que certaines des chansons qu'on y entend ont plus de 10 ans, on est sûr que quelques mois de retard ne l'auront pas périmé. Le groupe en question s'appelle AVSS Cyclone. Comme son nom l'indique, il est espagnol et il est hébergé par le mythique et très actif label indépendant Aquarella qui avait publié en 2013 le premier disque de AVSS Cyclone. En réalité, un recueil de maquettes enregistré en 2 jours dans un registre rock dépouillé et ralenti. Pour leur deuxième album, les Espagnols n'ont pas vraiment accéléré le pouls de leurs chansons, mais ils en ont davantage travaillé le son et les textures. Et la base, guitare, basse, batterie est enrichie de percussions, claviers ou cuivres. Une volonté de sortir de sa zone de confort qui donne à ce beau Kumbaya un charme sans âge.
Rendez-vous demain pour retrouver les meilleurs moments d'Accent d'Europe.